Edmond Le Bellier, le clown. L'enfant allait sur 11 ans, fidèle et nerveuse, de petits yeux bleus vivaces, enfouis sous l'arcade sourcilière, un nez vif et spirituel, des lèvres décolorées, des cheveux fins, d'abord blonds, puis tournant au châtain, la démarche alerte, le babil incessant et l'aplomb précoce. Telle était la petite Berthe, une vraie fleur de Paris. Charmante et poétique dans sa virginité même, une fleur de rue poussée à la diable entre deux fentes de pavés faubouriens et qui s'était développée, pâquerette urbaine, dans une arrière-boutique de coiffeur, étroite, obscure et tout imprégnée de parfums rancis, rue d'Ancourt à Montmartre. Les pentes lépreuses de la butte, les marchands à balais de la place Saint-Pierre, empanachés d'un maigre plumet vert, audacieusement qualifiés arbres par les agents voyés de l'arrondissement, la vasque de granit de la place Pigalle, où perpétuellement croupit une eau saumâtre ravivée seulement par les pluies, les carrés de gazon pelés de la place d'Anvers et les lauriers en caisse garnissant la terrasse des marchands de vin, traiteurs de la rue de Ravignan, voilà tout ce que la petite Berthe, à 11 ans bientôt, connaissait de la nature. Son père, Théodore, le coiffeur du théâtre, ex-voltigeur de garde né à Castelnaudary, perruquier du régiment à Saint-Cloud, avait quitté le service à l'expiration de son second congé pour épouser une sensible cuisinière de Montretout à qui son maître, en mourant, avait laissé un petit magot. L'héritière avait un frère garçon de café à Montmartre et cela avait décidé du choix du fond. Théodore, de perruquier réglementaire promu coiffeur civil, était venu accrocher une main de cuivre parlant de ses plats à barbe au-dessus d'une petite boutique louée proche du café à côté du marchand de tabac. Grâce à la protection d'Eugène, le frère de Madame Théodore, on avait eu tout de suite la clientèle de messieurs les artistes du théâtre, à qui le garçon de café faisait souvent foi crédit d'un boc ou d'un paquet de cigarettes. Le ménage vécu ne fit pas fortune. On travaillait pour le propriétaire ou s'en fallait. Théodore, malgré toute son activité, ne pouvait pas encore, après 12 ans de coups de peigne, faire les frais d'une aide. L'an prochain, se disait-il, aux heures de rêverie fortunée, me donnerait le luxe d'un artiste. Mais au bout des 11 mois, les comptes faits, il était indispensable de renvoyer l'artiste à l'an prochain. Avec quoi l'aurait-on nourri? Ça mange fort et c'est exigeant, s'éclaire au rasoir. Madame Théodore tenait la caisse, peignait les chignons, dressait les fausses nattes et cherchait à approvisionner clients et clientes de pots de pommade et de lotions végétales susceptibles de faire repousser les cheveux sur les têtes les plus chauves ou de garder aux tignasses les plus décaties le luisant de la 20e année. Et lui, du matin au soir, taillait, rasait, peignait, frisait. On ouvrait à 7h30 et l'on fermait à 10h. Le dimanche, on ouvrait à 6h30 et le samedi de paye, on allait le soir jusqu'à des 11h. Impossible de faire des parties de campagne avec un état aussi assujettissant. De là les ignorants champêtres de la petite Berthe. Seulement, comme il est bon de se distraire un peu, et qu'il fallait amuser l'enfant, qui était bien sage, vers 9 heures chaque soir, ayant des billets de faveur comme dépositaire d'une affiche, Madame Théodore emmenait la petite au cirque Fernando, dont son mari convoitait d'ailleurs la pratique. Les exercices de haute école, le travail à cheval des écuyers, le saut dans les noms de gros papiers, les chevaux dressés en liberté présentés par Madame Luis Fernando, les équilibres difficiles et les voltiges aériennes furent une impression décisive et profonde sur le cerveau excitable de l'enfant. La piste, avec son sable jaillissant en mottes lourdes sous le sabot des chevaux, le lustre flamboyant, l'orchestre déchaînant ses cuivres à l'entrée triomphale de l'écuyer, les sauts, les culbutes, les contorsions de clowns, enterrent ses jeunes rêves, possédèrent son âme et l'entraînèrent dans un monde fantastique et fascinateur. Ses yeux se cernèrent de brun, son front parut se pencher en avant comme si le poids d'une rêverie permanente l'entraînait. Et la nuit, derrière ses petits rideaux blancs, dans sa lorgnette d'appartement qui lui était attribuée en contrebas du lit paternel, Berthe, sans sommeil, demeurait plongée dans une extase sans fin. L'alcôve dérisoire et triste où était encadré son lit de fer s'agrandissait et s'illuminait soudain. La vision du cirque, éblouissante et prestigieuse, emplissait le réduit noir et nauséabond, et parmi les fioles des clients, les pots de pommade, les poudres dentifrice alignées sur les étagères en face d'elle, l'enfant revoyait, au son d'une musique étrange, l'écuyer étalant ses cuisses nerveuses, tordant ses jarrets souples et s'élançant le sourire aux lèvres et le torse bombé sur la croupe du cheval blanc. Que dirais-je, le craquement du fouet? Et là, campé hardiment sur la plateforme, jonglant avec les boules de cuivre qui font une auréole de métal, le gymnaste, arc, s'accrochant au trapèze volant, et d'un coup de rein enlevant jusqu'au cintre, et de là, sans point d'appui, ni corde, ni balancier, lâchant son trapèze et courant à travers le vide à la rencontre d'un autre rouleau de bois, suspendu par 2 cordes au-dessus de l'abîme, puis dans son imagination surchauffée, se déployaient des écharpes multicolores que le jeune écuyer à la jupe diamantée franchissait, légère, aérienne, oiseau plutôt que femme. C'était aussi les Hercules, aux membres monstrueux, dont les muscles font craquer les maillots roses, se campant des poids de 42 au poing, dans l'attitude monumentale de ce géant de cuivre dont elle avait contemplé la colossale stature, servant d'enseigne au-dessus d'un magasin de meubles de la rue Rambuteau, un jour que ses parents achetaient des toiles et des choses pour le salon des dames. Et enfin, dominant tout ce monde équestre et acrobatique, se dressait un clown magistral et énigmatique, avec sa perruque rousse formidablement hérissée, son collant violet brodé de fleurs d'argent, ses yeux agrandis par le crayon, sa face blanche de phare et son cri triomphal ponctuant les miracles de souplesse et de sa légèreté. Boum, boum. Oh, ce cri! Elle l'entendait délicieusement résonner à ses oreilles durant ses redoutables insomnies d'enfant impressionnable et précoce. Et de toutes les visions qui hantaient et charmaient son cerveau surexcité, l'image dominatrice et resplendissante du cloum-boum-boum revenait sans cesse, complétant et effaçant tous les autres. Et peu à peu, cependant, l'enfant changeait. Un mal inconnu et rapide l'abattait. Les yeux se creusaient de plus en plus sous l'orbite. Des tremblements convulsifs agitaient ses membres fragiles. Un jour, enfin, portant la main à son front, elle se plaignit. C'était lourd, c'était chaud, ça la gênait. Elle demanda à se coucher. Le médecin vint, il hocha la tête et après avoir prescrit des compresses d'eau glacée et des potions opiacées, murmura d'un air peu rassurant « c'est grave, méningite, compliquée de désordres cérébraux, oh, je reviendrai tantôt. » Et quand il revint, l'enfant s'agitait dans son lit en proie à une fièvre intense. Elle faisait par moments des gestes étranges, impatients et saccadés, comme si elle était désirée autre quelque chose qu'on s'obstinait à lui refuser. « Oh, donnez-lui tout ce qu'il demandera, » dit le médecin, en se retirant après avoir prescrit, par requis de conscience, de continuer les compresses et d'administrer d'heure en heure une cuillerée de potion. Théodore était comme fou de désespoir. Il adorait cet enfant. Toute la pensée et toute la joie de sa dure et prosaïque existence de perruquier, besogneux et affairé. Entre deux coups de rasoir, il courut nu-tête et le paye enfoncé dans sa crinière grasseuse chez l'épicier, chez le papetier, ses voisins. Il en rapporta des bonbons acidulés, dits bonbons anglais, des images d'épinal aux couleurs brutales, et une poupée habillée en laitière, toutes choses, pensait-il, propres à amuser l'enfant malade. Mais la petite fille agitait toujours nerveusement ses mains moites, tournait la tête et repoussait les images. Ne touchait pas aux bonbons. Écartait de ses ongles fiévreux la laitière qu'on lui présentait. Mais que désirait-elle donc? Des clients, témoins du désespoir du père, venait jeter la serviette au cou à un regard sympathique et curieux dans l'arrière-boutique, avant d'aller ployer leur tête en savonner dans la cuvette. Il y en avait qui dissertaient sur la maladie de l'enfant. D'autres conseillaient des jouets nouveaux ou des sucreries compliquées pour la distraire. Et l'un d'eux, plus avisé que les autres, s'étant penché vers l'enfant, entendit ce nom sortir comme un râle de sa gorge enfiévrée. Boum, 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 boum. Il comprit alors ce que désirait la petite. Ce client était précisément un des employés du cirque. D'un bond, il fut aux écuries. C'était l'heure de la répétition, et trouvant le clown qui, en costume de ville, patiemment dressait un jeune cochon de lait dont l'exhibition était déjà annoncée, il l'emmena chez le coiffeur après lui avoir rapidement mis au courant. Quand le clown pénétra dans l'arrière-boutique où déjà râlait l'enfant, Un éclair de joie illumina la face pâle de la petite. Elle avait reconnu celui dont elle avait tant rêvé, mais bientôt cette joie éphémère disparaissait, et secouant tristement la tête, l'enfant fit signe que ce n'était pas ainsi qu'elle voulait voir une dernière fois celui qui l'avait si profondément impressionné qu'elle en mourait. Et de ses doigts amaigris, elle s'efforçait de se faire comprendre en touchant la redingote correcte du boum-boum et en repoussant faiblement celui qui la portait. Alors le clown devina. Il sortit en courant, après avoir fait à l'enfant un signe qui la rassura. L'espoir vint colorer délicieusement son agonie. Et croisant ses petites mains, elle attendit, confiante et reposée. Un quart d'heure après, l'artiste entrait dans la boutique, se débarrassait vivement du grand paletot boutonné jusqu'au haut qui l'enveloppait, jetait son chapeau de feutre et apparaissait avec le maillot violet émaillé de fleurs d'argent, la perruque rousse hérissée, la face badigeonnée, au terme de la représentation, enfin. Oh, l'enfant eut un mouvement de joie indicible. Elle fit un effort pour écarter ses deux mains et applaudit comme autrefois durant les belles soirées du cirque. Mais elle n'en eut pas la force. Elle ne put que sourire avec reconnaissance au clown, qui devant ce lit où la mort avait déjà allongé sa griffe, se mit à cabrioler, à pirouetter, à gambader avec sa dextérité et sa souplesse merveilleuse. Et au milieu d'un dernier saut de carpe, il s'arrêta brusquement, l'élan brisé, le regard effaré, les yeux de la petite Berthe, ardemment fixés sur lui, s'étaient tout à coup voilés. L'enfant était morte, la joie au cœur et le sourire aux lèvres. Et le clown, essuyant une larme qui roulait sur sa joue fardée, reboutonna son paletot en hâte et, après avoir renoncé et renforcé sa perruque soyeuse sous son feutre mou, sortit pour pouvoir pleurer à l'aise sur le boulevard extérieur.